Cela fait près d'un an que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne et près de deux semaines maintenant qu'il découvre ses nouvelles relations commerciales avec les 27. Tout cela grâce ou à cause d'un homme, c'est selon Boris Johnson, le fils d'une famille europhile devenu journaliste eurosceptique puis dirigeant conservateur, à la fois drôle, séducteur et incroyablement cynique. C'est son ascension et sa manière de faire de la politique que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5, Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. Bonjour Walid Berissoul.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui sera diffusé à 20h50 tout à l'heure. Bonjour Florentin Collomb.
Bonjour.
Vous en êtes le co-auteur et vous avez suivi le parcours de Boris Johnson ces dernières années puisque vous avez été le correspondant du Figaro à Londres. Walid Berissoul, je le disais, votre documentaire sur Boris Johnson a pour titre l'illusionniste du Brexit. Pourquoi avoir choisi ce mot illusionniste?
Ça nous a paru comme une évidence. Au départ, on était hésité entre battleur et joueur de poker et finalement l'illusionniste, c'est ce qui correspondait mieux parce que Boris Johnson, c'est avant tout quelqu'un qui se racontait des histoires. C'était un journaliste à Bruxelles correspondant qui avait une relation à la vérité des faits un peu particulière. Et il continue en fait à raconter une histoire aux Britanniques, à une partie des Britanniques qui a voté pour lui et pour le Brexit, à une autre partie qui est plus sceptique et qui, elle, voulait rester dans l'Europe. Et c'est un illusionniste parce qu'en fait, on se demande dans ce film si le Brexit a finalement la même signification pour un pêcheur dans le sud de l'Angleterre, pour un ouvrier dans le nord-est qui votait avant travailliste et qui maintenant vote pour les conservateurs, ou pour un trader à Londres. Pour ces trois catégories de population qu'on a été sondées, le Brexit n'a pas forcément le même sens. Et Boris Johnson, lui, il arrive très habilement à enjoliver tout ça, à enrober tout ça dans une espèce de récit qui viserait en gros à restaurer la grandeur de la Grande-Bretagne.
Alors votre film va sur le terrain, mais il raconte également l'ascension de Boris Johnson, promoteur, défenseur du Brexit, alors qu'il vient d'une famille d'Européens convaincus. Son père a fait partie des premiers fonctionnaires britanniques qui avaient été envoyés à Bruxelles en 73, l'année de l'adhésion du Royaume-Uni à la CE, l'ancêtre de l'Union Européenne. Voici donc les Johnson dans la capitale belge, le père et la sœur de Boris Johnson en personne, vous en ont parlé.
Il y avait des gens très intéressants, un très bon esprit. Je vivais à Uccle, une de ces banlieues verdoyantes et très agréables de Bruxelles. Mes enfants allaient à l'école européenne. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris le français et être de bons Européens.
Et nous sommes devenus les bons petits Européens.
On a reçu une éducation complètement multiculturelle et polyglotte à Bruxelles.
Florentin Collomb, qu'est-ce qu'il apprend à Bruxelles au-delà d'apprendre le français, Boris Johnson?
C'est ça qui est fascinant avec Boris Johnson, l'homme qui finalement sera, dont on se souviendra comme celui qui a tiré le Royaume-Uni hors de l'Europe. Ouais. C'est un des hommes politiques britanniques de ces dernières années qui connaît le mieux l'Europe. Il y a grandi, il y a passé sa petite enfance, il discutait, il était dans ce milieu, comme dit sa sœur, polyglotte, multiculturel, multi-international, où il a commencé à comprendre les rouages de l'Union européenne. Puis il est reparti en Grande-Bretagne à l'âge de 11 ans pour suivre un parcours beaucoup plus classique. Ouais. Mais il est revenu à Bruxelles comme pour l'un de ses premiers jobs quand il est devenu journaliste. Il avait 20-25 ans comme correspondant du Télégraphe. Et là encore, il a une connaissance très pointue de l'Union européenne, mais qu'il a utilisée à son propre profit et à ses propres fins pour mener une campagne.
Et même parfois, on va en parler, je vous interromps parce qu'il ne faut pas spoiler toute cette interview, contre ses propres convictions. Oui. En 75, il a 11 ans, Boris Johnson retourne en Angleterre. Là, il va où vont les bons fils de famille. Eton, grand collège, puis Oxford, l'une des plus prestigieuses universités, non seulement britannique, mais mondiale. C'est là-bas qu'il se forge son caractère.
C'est là-bas qu'il se forge en fait son personnage. C'est-à-dire que, comme l'explique notamment sa biographe, mais je ne veux pas effectivement trop divulgâcher le film, c'est là en tout cas qu'il se forge ce personnage, toujours un peu brouillon quand on le voit parler en public. Il fait toujours mine d'avoir perdu un peu ses notes, de chercher un peu ses mots, alors qu'en fait, il sait exactement ce qu'il veut dire. Ça crée un effet, et surtout, il se crée ce personnage drôle.
Ah
il
oui.
fait rire.
Parce que vous revenez sur un épisode éloquent, c'est son élection à la tête d'un des clubs de l'université, l'Oxford Union. Ouais. Un moment qui dit beaucoup de sa personnalité, raconté par sa biographe. Elle s'appelle Sonia Purnell, elle est journaliste, et un journaliste du Financial Times qui s'appelle Simon Cooper.
Assez tôt, il s'est présenté à la présidence contre un gars beaucoup moins chic qui s'appelait Neil Sherlock. Et Boris a fait campagne en disant « Votez pour moi, je suis drôle et charismatique ». Sherlock a fait campagne en disant au contraire « Johnson est un gars de la haute et de droite ». et Sherlock a gagné. Alors l'année suivante, Johnson n'a pas dit qu'il était conservateur, mais juste un gars sympa, et la seconde fois, il a gagné.
Et c'est ce qu'il a fait plus tard comme politicien. Il a dit à des gens différents ce qu'ils voulaient entendre. Il a dit aux anciens électeurs de gauche du Red Wall dans le nord industriel, « Faites-moi confiance, je vais améliorer votre vie. » Même si ça n'allait pas se révéler vrai, c'est ce qu'il leur a fait croire.
Alors, Boris Johnson remarque qu'il vaut mieux adapter son discours et ses convictions si on veut gagner l'élection. Et cette tactique, il va l'appliquer également lors de la campagne pour la mairie de Londres, c'était en 2008. Il sera élu en se présentant, moi je me souviens de ça, Boris Le Rouge. Le Rouge, c'est-à-dire le communiste, alors il fait partie du camp conservateur. Mais il est un candidat de la droite, Florent Tapolon.
Ça résume très très bien aussi le personnage, parce qu'il avait été envoyé dans cette élection à la mairie de Londres par les partis conservateurs, comme au casse-pipe, parce qu'il pensait que la ville de gauche était imprenable. Boum, avec son charisme, son humour, il change complètement de discours, il devient pro-immigration, il est pour naturaliser les illégaux, il devient un candidat, une sorte de candidat bobo, et pendant ses 8 ans à la mairie de Londres, il est devenu l'homme politique préféré des Britanniques. Tout le monde avait envie de boire une bière avec lui, il est devenu extrêmement populaire et c'est là que ça...
Ça, je comprends très bien qu'il soit sympathique, mais vous le présentez comme un illusionniste, une élection c'est sérieux, comment ont-ils pu croire à ces boniments, tant est que ce soit des boniments, Walid Berissoul?
Bah parce qu'encore une fois c'est très bien raconté
et ils se sont dit il est sincèrement de gauche.
Ils se sont dit pour la ville de Londres il va effectivement porter les préoccupations des londoniens aussi. Il a aussi par exemple développé les vélos en libre service qui aujourd'hui marchent toujours assez bien. Enfin il y a beaucoup de cyclistes quand on va dans les rues de Londres. Il a quand même cette manière en fait de toujours emmener les gens.
Donc ce ne sont pas que des convictions, ce sont également des actes.
Ce sont également des actes.
Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait promis pendant l'élection?
Sur quoi? Sur la mairie de la mairie de Londres, bah en partie, mais après.
De toute façon, le maire de Londres a pas beaucoup de pouvoir. Voilà. C'est plus un job de représentation et il était excellent là-dedans pour dire que Londres est la meilleure ville du monde. Et
il a eu les Jeux Olympiques.
Ça, c'était les Jeux Olympiques de 2012.
Ah oui. Non, les Jeux Olympiques seront à Paris et les vélos en libre service sont également à Paris. On continue à parler de Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, avec Florentin Collomb et Walid Berissoul. À tout de suite. En compagnie de Florentin Collomb et de Walid Berissoul, on parle de Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, à voir ce soir, documentaire formidable sur France 5 à 20h50, suivi d'un débat, j'en reparlerai. Avant de mentir en politique, vous montrez que Boris Johnson mentait également dans les journaux, parce qu'avant de se lancer justement dans cette carrière politique, il était journaliste, et où, pas n'importe où, à Bruxelles. Il était le correspondant d'un quotidien conservateur, le Daily Telegraph, et c'est à cette époque qu'il a croisé et connu un journaliste français spécialisé Europe, Jean Quatremer.
Well, Jean, il ne faut jamais laisser les faits arrêter une bonne histoire. Boris a inventé un genre journalistique. Hein. C'était celui finalement qu'on appelle aujourd'hui la fake news, qui était à l'époque on appelait ça les euromythes.
Il ne détestait pas l'Union européenne, mais il a publié mensonge après mensonge sur l'Europe parce que ça plaisait énormément au Daily Telegraph et ça a incroyablement boosté sa notoriété.
Il avait inventé que l'Union européenne, par exemple, allait créer une brigade pour vérifier la bonne courbure des bananes. À l'origine, il y a effectivement un règlement européen qui prévoit des normes en matière de courbure de bananes. Par exemple, au Danemark, allez savoir pourquoi, ils aiment bien les bananes droites. Donc, c'est la catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, un peu plus courbe. Puis, il y en a qui aiment bien les bananes complètement rondes. Donc, c'est en norme. C'est juste pour faciliter le commerce. Et lui, il avait expliqué qu'on allait créer donc des brigades européennes pour aller vérifier sur place avec un maître si les bananes étaient bien courbes.
Alors, il se marre, Jean Quatremer, mais on voit la une du journal avec la courbure des bananes.
Ouais, c'est ça.
On va pas laisser les faits arrêter une bonne histoire. Vous avez entendu un bon reportage, dit Boris Johnson.
Ouais.
Et il va le montrer à d'autres reprises, à tel point que ça va déteindre sur d'autres journées britanniques. Walid Berissoul, racontez ce qui se passe à ce moment-là dans la presse britannique.
Bah, en fait, ça fait un effet de boule de neige. C'est-à-dire que, et c'est sa biographe qui le raconte aussi assez bien, les autres collègues dans les salles de presse, ils regardent ce que fait le camarade, surtout ce blond-là, un peu bizarre, un peu qu'on remarque, en fait, forcément. Mmh. Du coup, on se demande un peu ce qu'il a écrit, et donc du coup, les rédacteurs en chef, quand ils voient l'histoire à Londres, ils disent mais comment ça se fait que toi, t'es pas la même histoire? Mais c'est pas vrai.
Ah oui, j'y
pense. Finalement, voilà. Bah oui, bah en fait, si on va le
là
faire.
Là où c'est dingue, il avait dit qu'on allait détruire le bâtiment de l'Union européenne pour construire une tour de 2 km de haut.
C'est ça, ouais.
Et les patrons d'autres journaux disent mais pourquoi t'as pas fait ce sujet? Voilà, il dit c'est pas vrai. Et ben bah, débrouille-toi, fais-moi ce sujet.
C'est ça.
Florentin Collomb, vous étiez à Londres pendant très longtemps, pendant 8 ans. Regardez votre film. On s'aperçoit que Boris Johnson a su utiliser les médias, a joué avec eux, s'en servir pour ses propres propres intérêts. Est-ce qu'on peut dire qu'il les a manipulés ?
Ah bah oui, complètement, puisqu'il l'a fait de l'intérieur en tant que journaliste. Il a compris comment finalement intéresser les lecteurs, quitte à sacrifier la vérité, même la vérité parfois un peu ennuyeuse de l'Union européenne, et en faire un sujet d'entertainment, et quitte à créer et à souffler sur les braises d'un euroscepticisme.
Mais ça, c'était pour les journaux, les tabloïds, mais pas pour les journaux sérieux.
Mais c'était un journal sérieux, le Daily Telegraph, c'est l'équivalent du Figaro, hein, franchement.
Ah bon oui, c'est un journal. Quand on voit ça, quand on voit la une, on pense que c'est The Sun.
Non, c'est un journal très sérieux.
The Sun reprend après ce que fait le Telegraph.
Et finalement, tous les journaux se sont mis au diapason, et les journaux européens, les journaux britanniques ont très mal traité l'Union européenne, et ça a déteint dans la classe politique pour que ça devenait la vérité.
Puisque vous parlez de diapason, Johnson donne le là auquel il ne croit pas, et sa biographe vous révèle que lui-même, j'en arrive à l'élection au Brexit, ne s'attendait pas du tout à gagner, qu'il s'attendait pas du tout à remporter le référendum.
Bah oui, c'est ça, il pensait qu'il allait être un peu le perdant, qui a marqué un peu son qui a fait un coup et qui a posé un peu un gros jalon pour la suite de sa carrière, mais en fait ce qui se passe en juin 2016 quand le Brexit gagne à 52%, c'est que 52% des électeurs britanniques en fait quelque part disent maintenant Boris Johnson, c'est à toi de venir au pouvoir et de nous emmener là où tu as dit que tu allais nous emmener, quoi. Et là en fait il a effectivement l'air d'être un lapin pris dans les phares d'une voiture, parce qu'en réalité il savait pas exactement, parce que
là
pas
il
seul,
le fait pas tout de suite, il va pas au pouvoir, c'est d'abord, non, si je me souviens bien, c'est Theresa May
qui va d'abord, lui qui par un jeu de rivalité interne se retrouve un peu écarté, qui finit par être nommé ministre des Affaires étrangères, qui démissionne pour animer une fronde, et là encore il se met dans la minorité, elle finit par démissionner parce qu'elle n'arrive pas à faire passer son plan du Brexit, et là c'est lui qui arrive au pouvoir 3 ans après le Brexit.
Voilà. Et on rigole parce qu'on voit les bêtises qu'il racontait quand il disait qu'il y avait l'argent de la sécurité sociale anglaise, britannique, servait à financer les corridas en Espagne. On est chez les dingues et j'arrive pas à croire que les journaux aient pu gober ce genre de choses.
Oui, mais c'était une campagne qui a reculé devant aucun moyen, hein, qui a été animée par des spécialistes de la manipulation des foules sur les réseaux sociaux, et la presse a été tout à fait complice de ça. Mais ce qu'on a voulu raconter aussi dans le film, c'est que tout ça n'était pas fait pour être mis en pratique. C'était une campagne de protestation, d'un référendum, mais personne n'a écrit de plan de qu'est-ce qu'on allait faire avec la victoire du Brexit et qu'est-ce que serait que la Grande-Bretagne post-Brexit. Et c'est ça le problème et la réalité à laquelle se retrouve confronté le pays aujourd'hui.
Et la réalité à laquelle se trouve confronté votre documentaire, et c'est pas la moindre de ses vertus, dans le film, vous ne vous contentez pas de raconter l'ascension de Boris Johnson avec des images d'archives, avec des entretiens. Vous êtes également allé sur le terrain, en Écosse, dans le nord de l'Angleterre, avec des ouvriers dans le sud, des pêcheurs à la rencontre de Britanniques qui donnent leur avis sur la politique de Boris Johnson, puisqu'il est désormais aux manettes, sur la gestion de la crise sanitaire, économique. Exemple, à Londres, dans la City, un gestionnaire de fonds d'investissement très favorable au Brexit.
Les Brexiteurs les plus radicaux brandissent cette menace pour faire du chantage avec l'Europe. Ils veulent obliger Bruxelles à laisser la City avoir accès au marché européen sans en subir les contraintes.
Si vous laissez le Royaume-Uni dehors, son gouvernement fera du dumping fiscal. Il utilisera cet outil pour attirer les entreprises sur son sol. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Vous voulez un voisin qui utilise sa fiscalité et sa monnaie pour fermer vos usines ?
Florentin Collomb, vous avez suivi l'ascension de Boris Johnson. Est-ce que c'est un bon négociateur ?
C'est un bon négociateur parce qu'il a des tactiques très, très, très puissantes. Et il a mené les négociations, on l'a vu, sur l'accord de libre-échange jusqu'à la dernière limite, le 24 décembre, alors que c'est des négociations qui auraient dû se terminer des mois avant. Donc, il n'a peur de rien. Il a laissé planer la menace de sortir sans aucun accord, ce qui aurait été terrible pour l'économie britannique, encore plus que la situation actuelle. Donc, on peut dire qu'il utilise des tactiques de joueur de poker. Ouais. En même temps, c'est pas quelqu'un qui va dans le détail, dans le contenu des accords. Et si on parlait de la City à l'instant...
Ça, on en est où, justement, ouais.
Oui, la City ne fait pas partie de l'accord qui a été signé à la fin de 2020. Donc, c'est le premier secteur économique britannique. Hein, c'est 7% de leur PIB. Et c'est pour ça que ce trader de hedge fund nous dit que si la City ne réussit pas à avoir accès à son principal marché extérieur, hein, l'Union européenne, ils vont déréguler, ils vont faire une concurrence débridée aux portes de l'Union européenne. Et ça, c'est le projet d'origine des concepteurs du Brexit, devenir une sorte de plateforme offshore aux marges de l'Europe pour faire de la concurrence déloyale, ce qui a donné des cheveux blancs à Michel Barnier pendant ses 4 ans de négociation.
Je crois que les cheveux blancs, il les avait déjà, Michel Barnier.
Ouais.
L'image a fait la une des journaux aux Pays-Bas ces jours-ci, des policiers néerlandais en train de confisquer des sandwichs au jambon à des automobilistes britanniques, pardon de rire, qui arrivent sur le continent. C'est l'une des conséquences du Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il est interdit aux particuliers d'importer de la viande et des produits laitiers britanniques dans l'Union Européenne. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça, les gens, les vrais gens qui avaient voté pour le Brexit
Il y a plein d'aspects, quand on défait comme ça 47 ans d'appartenance à l'Union Européenne, évidemment, il y a plein d'aspects concrets du quotidien qui changent du jour au lendemain. Alors là, on a parlé d'un accord qui ne met pas de taxes et de droits de douane, mais en fait, il y a quand même des contrôles douaniers aux frontières. Donc, il y a des exemples très concrets dans l'alimentation. Par exemple, nous, on a parlé des palettes. Les palettes, c'est les supports sur lesquels tout est transporté. Et ben là aussi, ça va devoir passer 9 formulaires douaniers différents à Douvres ou à Calais. C'est un pays tiers maintenant.
Et autre conséquence, il y a une pleine page hier dans le Parisien. Et il n'y a plus de nourriture fraîche dans les Marks & Spencer Food parce que les camions sont bloqués. Dernière question, en France évidemment. Colomb, est-ce qu'il est populaire, Boris Johnson, aujourd'hui, ou est-ce qu'il a beaucoup perdu sa superbe?
Il a beaucoup perdu. Les Anglais mettent longtemps à se retourner contre les leaders qu'ils élisent. Ils ont été très indulgents avec lui au début de la crise du Covid, surtout quand lui-même a été malade. Ils ont eu beaucoup d'empathie pour lui. Mais maintenant, je crois qu'ils en ont assez. C'est un pays qui est à bout, particulièrement en raison de la façon dont ils subissent la crise du Covid. Et Boris Johnson devient de moins en moins populaire. Il y a un sondage qui a été publié ce week-end qui disait qu'une majorité de Britanniques souhaiterait qu'il démissionne.
Merci beaucoup, Walid Berissoul. Ne démissionnez pas. Merci beaucoup, Florentin Collomb. Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, à voir ce soir sur France 5, c'est à 20h50. Et le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Marina Carrère-Dancos, débat auquel vous participerez, Florentin Collomb. Merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct dans ce